Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le podcast « Pourquoi je suis expert comptable ?» et mon premier interview pour le premier épisode de cette saison, c'est Virginie Rothman. Bonjour.
Bonjour Florian.
Comment allez-vous?
Je vais super bien. On n'avait pas dit qu'on se tutoie.
Oui, on se tutoie. Comment vas-tu?
Je vais très bien. C'est un plaisir de te recevoir dans mon bureau, au 50 rue de Londres.
Oui, c'est un très beau bureau. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire voir que l'expert comptable, c'est top. Et comment tu en es arrivé ici? Et comment tu as pris plaisir à devenir expert comptable? Donc, avant qu'on parte sur la partie question, qui sera toujours en trois formats, la première partie, le passé, comment tu as eu le déclic pour devenir expert comptable, jusqu'à aujourd'hui devenir présidente de la région Île-de-France. Et après, sur une petite partie de ton futur quand même. C'est intéressant de savoir ce que tu vas devenir. Donc, j'ai fait une recherche sur toi. J'ai utilisé ChatGPT. Je lui ai dit, présente-moi Virginie Rothman, experte comptable sur Paris. Je l'ai cherché. Il m'a fait une petite synthèse. Alors, tu vas me dire, je te la raconte et tu me dis après si c'est OK.
Super.
Alors, il m'a dit, Virginie Rothman, profession expert comptable depuis 2002, présidente du conseil régional de Paris-Île-de-France depuis 2022. Ses études, elle est diplômée du MSTCF à l'Université de la Sorbonne. Carrière, elle a pris la direction du cabinet familial Fides en 2003, qui est aujourd'hui Lucieuse Group. Vice-présidente en charge de l'administration et des finances au Conseil national en février 2023, et en tant que récompense, nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2023. C'est un beau parcours. Et est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur?
Il n'y a eu aucune erreur, il est très très fort ce ChatGPT.
Oui, ça m'a impressionné quand j'ai vu ça, je suis là, bah top.
Ouais, mais t'as pas des pros, t'es pas inquiet Florent pour ton métier demain?
Non, parce que faut toujours aller de l'avant. Et ça ne changera pas celui qui partage tout ça. Mais c'est vrai qu'en synthèse, il est fort. Hein.
D'accord.
Donc, on est parti sur le plus important, là, ça va être le passé. Donc, on dit que l'expert comptable, faut dorer le blason, il faut après faire voir que c'est super top. Moi, je vais plutôt aller dans les entrailles. Je veux que tu me dises, en fait, à quel moment de ta vie, tu as décidé de devenir expert comptable? Tu as eu le déclic, tu te dis, ah, c'est ce métier.
Alors là, ma réponse va vraiment te surprendre parce que moi, j'avais 7 ans. Voilà, à 7 ans, je voulais être expert comptable comme papa.
D'accord.
Donc mon père était expert comptable, passionné, passionnant, vivant, travaillant beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui fait que je le voyais assez peu. Et peut-être pour un peu faire la maline, pour me faire remarquer dans cette famille, j'ai dit, moi, je vais être expert comptable comme papa. Donc c'était, toi, il y a longtemps. Et puis après, on était sur la plage. Papa était avec ses revues fiduciaires. Il travaillait tout le temps. Il travaillait le samedi, il travaillait le dimanche. Et je savais parfaitement ce que je ne voulais pas faire. Après, c'était travailler tout le temps.
Travailler tout le temps. Pourtant, papa faisait le travail tout le temps. Donc, tu t'es quand même dit, je fais comme lui, mais différemment.
Bien sûr. Et il faut toujours faire différemment. On ne peut pas faire la même chose que ses parents. Il y a quand même une génération d'écart.
Et donc, derrière, tu pars sur les études?
Donc, derrière, j'ai rapidement compris que le fait de vouloir être expert comptable comme papa n'était peut-être pas une vocation métier, je me suis toujours laissé la possibilité d'ouvrir le champ des possibles. Donc, j'ai fait des études plus ou moins généralistes, un doc de gestion, et parce que ça, ChatGPT ne l'a pas vu. Et après, une MSTCF à la Sorbonne, ce qui me permettait, si le métier d'expert comptable ne m'avait pas plu, de faire autre chose, d'être DAF dans des groupes, enfin toujours dans la finance et la gestion, mais peut-être pas expert comptable. Et en fait, ça m'a plu. Et ça m'a plu, je suis sortie de MSTCF. J'ai tout de suite eu mes UV de synthèse, comme on disait à l'époque. Et donc, j'ai rapidement été expert comptable stagiaire à 23 ans. Et j'ai commencé donc dans des cabinets. Et j'ai bossé à peu près 10 ans dans des cabinets qui n'étaient pas celui de mon père pour explorer d'autres univers.
L'objectif, c'était un peu de ne pas être sous la houlette de papa et peut-être de se dire, je vais me faire ma propre carrière et avoir aussi une vision différente. Oui, plus grands cabinets, petits.
Une vision différente, ouais, tout à fait, d'autres grands cabinets avec d'autres missions et aussi une volonté de ne pas forcément être étiquetée fille à papa. C'est compliqué dans les entreprises d'être fille ou fils à papa. Donc, cette volonté-là de voir ce qui se passe ailleurs avec évidemment un autre climat social et une vraie position de collaboratrice dans un cabinet, ce qui n'est pas forcément le cas dans une entreprise familiale.
Et donc à 7 ans, ça y est, on se concentre sur les mathématiques, si je comprends bien.
Alors, à 7 ans, pas du tout. On croit toujours qu'expert comptable, faut être oui. fort en maths, mais ça, c'est dans les préjugés. En fait, expert comptable, c'est un vrai métier de contact. Voilà, d'écoute de l'autre, d'écoute du chef d'entreprise, d'écoute de ses besoins. Je sais bien qu'on a un enseignement hyper technique, mais la réalité, c'est qu'on est proche de nos clients et on peut avoir une technicité extrême. Si on ne sait pas les écouter pour les aiguiller, le métier devient un peu frustrant.
Vous avez bien compris, du coup, les mathématiques, ça n'empêche pas, si on n'est pas bon là-dedans, de devenir expert comptable. Par contre, une écoute, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre les besoins, derrière de proposer des services et en fait d'être compétent. C'est surtout d'être en fait comme un psychologue de chef d'entreprise en fait.
Oui, bien sûr, c'est comme un psychologue. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont donné des missions, j'ai envie de dire, terribles. Je peux vous raconter cette anecdote. On ne l'avait pas du tout prévu, mais je la raconte quand même.
Oui, bien sûr.
Il y a 15 ans, un de mes clients allait très mal. Il savait qu'il allait mourir. Et il me dit, Virginie, tu t'occuperas de Pénélope. Donc Pénélope, c'était sa femme. Parce qu'il était chef d'entreprise, à la tête d'une entreprise. Et il est inquiet pour sa femme. Et c'est ce relationnel-là qu'on peut aussi développer avec ses clients qui nous suivent pendant des années. Alors, après, chacun son modèle de cabinet. Hein. Moi, j'ai un modèle de cabinet traditionnel avec une relation, on va dire, traditionnelle avec les clients. On peut avoir un autre modèle qui est de faire du low cost et il n'y a pas cette proximité. J'ai aucun jugement de valeur sur la façon d'exercer. C'est pour ça que c'est un métier extraordinaire où on exerce comme on veut. Mais ma façon d'exercer ce métier, c'est d'être vraiment au service des clients. Et le chef d'entreprise est un spécimen isolé, en fait. Avec qui le chef d'entreprise discute-t-il de son entreprise? Eh bien, avec son expert comptable. C'est pas avec son avocat, c'est pas avec son notaire. Le chef d'entreprise de TPE-PME, il n'a qu'un seul interlocuteur. L'interlocuteur du quotidien, c'est l'expert comptable. Et donc, on se retrouve à tout savoir dans ces relations de long terme, en fait.
Il y a un autre point que tu as soulevé, Virginie, c'est dire que cette profession, on peut en fait la faire comme on veut. Il n'y a pas un seul modèle de la façon de faire. On peut être proche de ses clients, spécialisé plutôt dans la TPE, PME. On peut faire des grands groupes et pas faire du relationnel, du low cost. Enfin, il y a des mille facettes, en fait.
C'est un métier extraordinaire, une profession libérale. Et qui dit libéral, dit liberté. On fait ce qu'on veut. Et on se spécialise. On ne se spécialise pas, on est proche ou on n'est pas proche de ses clients, on fait du copilotage en gestion ou on n'en fait pas. En fait, on choisit ce qu'on veut, on travaille beaucoup ou pas beaucoup. Personne ne nous demande d'avoir un portefeuille de 100 clients. Quand on est à son compte, on peut se limiter à 30. J'ai beaucoup de consoeurs qui ont décidé de partager leur temps entre faire de la formation, être jury d'examen et avoir un petit portefeuille de clients. En fait, c'est un vrai métier à tiroir qu'on exerce comme on veut exercer. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
C'est important. On peut faire là beaucoup d'heures ou pas en faire du tout. Oui. C'est nous... En fait, c'est à nous de jongler en fonction de nos appétences et nos envies de vie.
Bien sûr.
C'est bien de le rappeler.
Ouais, je l'ai rappelé.
Et qu'on peut, en fait, aussi le faire passer beaucoup de temps plus tard en fonction de la vie, notre situation, le faire varier, ça.
C'est exactement ce que j'ai fait dans ma carrière. À un moment donné, je me suis plus consacrée à mes filles. J'ai deux filles extraordinaires qui maintenant ont 23 et 25 ans, donc elles ont beaucoup moins besoin de moi. Et j'étais très présente pour elle pendant longtemps et un peu moins maintenant.
Eh ben, je rebondis sur une question qui n'était pas prévue. Comment tu t'es dit, je suis expert comptable et je vais avoir deux enfants, je ne vais pas pouvoir gérer ça? C'est possible ou pas?
C'est vrai que pour nous les femmes, c'est toujours un peu compliqué parce que bien évidemment qu'on a cette charge-là. Parce que en réalité... Mais là, c'est un énorme secret. En réalité, les enfants, on ne les fait pas toutes seules.
Non.
En réalité. Donc, il y a souvent un papa. Et curieusement, c'est une problématique souvent uniquement féminine. Et donc, je ne me suis posé aucune question. Comme j'ai toujours été assez libre dans ma tête, ce n'était pas un sujet, moi. J'étais mariée, nous faisions des enfants. Évidemment, la charge, allait se partager. Ça n'a pas du tout été comme ça. Donc je ne me suis pas posé de questions. C'était pas un problème du tout d'avoir des enfants. Je n'ai jamais imaginé que ce soit un inconvénient ou un obstacle d'avoir des enfants et de travailler.
Ça, c'est important de le souligner, qu'on peut avoir une très belle vie professionnelle et une vie personnelle. Et que, en fait, on peut aller sur des gros postes politiques à un moment donné. Il faut vraiment se laisser le temps, je pense, et faire étape par étape.
Oui, c'est ce que j'ai fait quand mes filles ont eu 14-15 ans. C'est là que j'ai commencé à m'interroger et à me rapprocher un peu de l'ordre et des syndicats en me disant, là, j'aurai un petit peu plus de temps. Et comme j'ai adoré être utile pour mes clients, je me suis dit, pourquoi ne pas être utile à la profession ?
C'est super. En plus, on a plein d'anecdotes. Merci à toi. On va poser la prochaine question sur ta ascension un peu professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Donc, je me lance dans les études, ça y est, je deviens expert comptable stagiaire et j'arrive jusqu'au bout. Ça y est, on est expert comptable, j'ai le diplôme. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est dur ? Dis-nous un petit peu comment tu as ressenti cette période-là qui est en fonction des gens.
C'est pas simple et surtout qu'on est une femme, c'est pas simple du tout. Moi, j'étais expert comptable stagiaire, j'avais 23 ans. Et j'ai été diplômée, j'en avais 32.
D'accord.
Donc j'ai fait 3 ans de stage, et après il a fallu passer le DEC. Et entre-temps j'ai eu 2 filles. Donc j'ai d'abord fait des enfants, et puis après j'ai passé le DEC. Quand on passe le DEC avec des valises énormes, et qu'on est à Arcueil, à monter tous les étages, et qu'on est enceinte, c'est un peu compliqué, voilà pour l'anecdote. Et c'est vrai que ce diplôme-là, à la différence des avocats, les avocats, ils ont une barrière à l'entrée aussi, et pas à la sortie. Nous, on a une barrière à l'entrée, parce que le DSCG est compliqué à obtenir, et le DEC est dur aussi à la sortie, avec le mémoire, les écrits, etc. Je pense que ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans la profession. On n'est que 27 ou 28%.
Mais ça change maintenant, sur la nouvelle génération, c'est bien.
Et là, sur la nouvelle génération, on est à peu près 40%. Ouais. Mais une petite réforme de diplôme pourrait rééquilibrer les choses, parce que cette barrière à l'entrée et à la sortie est compliquée. En bref, donc ça m'a pris 9 ans pour devenir expert comptable. Et donc, en octobre 2002, j'étais expert comptable, comme l'a justement dit notre copain ChatGPT.
Ce qu'il faut se dire, c'est se laisser le temps, c'est pas de renoncer dès la première épreuve ou de se dire, c'est une épreuve, tu disais t'étais enceinte, c'est pas grave, on y va, on prend le temps.
En fait, il n'y a pas d'urgence à avoir le diplôme. Il est dommage de s'arrêter, mais il n'y a pas d'urgence. Personne nous a dit, si t'es pas expert comptable à 30 ans, t'as raté ta vie, ou à 25 ans, ou à 35 ans. Il est dommage de s'arrêter en cours de parcours. Je trouve ça, quand on est tout proche du but... Il faut aller jusqu'à la fin. En fait, on est une profession réglementée où le diplôme est obligatoire. Il est dommage de ne pas l'avoir. Il est dommage d'avoir fait 90% du parcours et de ne pas avoir fait les 10 derniers pourcents. Alors après, je sais que c'est compliqué. Ça l'a été pour moi. Hein. En congé maternité, j'écrivais mon mémoire. Hein. Bon, donc oui, c'est compliqué, c'est lourd, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que le fait d'avoir le diplôme permet de se réaliser en se mettant à son compte si on le souhaite et d'exercer comme on veut, en fait, d'être libre.
Moi, c'est la même chose, c'est le diplôme d'expertise comptable qui me permet de t'interviewer maintenant, de comprendre un petit peu et de proposer une mission auprès des confrères. Et quand même, comment tu as réussi à conjuguer le fait d'avoir des enfants, en même temps de travailler, faire ton mémoire, tout ça. Comment tu dirais à la nouvelle génération, comment s'organise là-dessus, cette partie-là, qui n'est pas simple, mais qu'il faut vraiment le jeu.
Il semblerait que je sois une femme très, très organisée et avec un fort goût pour la planification. Je savais exactement ce que je ne voulais pas faire. De toute manière, quand je déposais mes filles à l'école le matin à 8h30, je voulais être rentrée à 19h30. Et en fait, quand on se pose une limite, on est très efficace. Quand on n'a pas de limite, quand on se dit on peut rentrer à 21h, le temps peut être un peu plus extensible. Alors, à l'époque, je n'avais pas aussi les histoires de téléphone portable et de sollicitation, mais à un moment donné, il faut couper. Là, toi, je coupe mon téléphone. Ce qui n'existait pas hier, aujourd'hui, je l'applique. C'est-à-dire que mon téléphone n'est jamais en mode sonnerie pour l'organisation actuelle, parce que sinon, on est trop dérangé et là on perd de l'efficacité. Donc on peut être efficace. Hein. Quand j'ai repris les cabinets de mon père, hein, Alors, pas tout de suite, mais au bout de quelques années, j'ai fait en 35 heures ce qu'ils faisaient en 70 heures, en déléguant. Voilà, essentiellement en déléguant. Voilà, essentiellement en déléguant.
Donc, organisation, délégué.
Délégation, évidemment, beaucoup de travail, beaucoup de formation, beaucoup de travail. Je suis une grande travailleuse.
Mais c'est de te mais dire toujours.
Mais dans des horaires contenus.
Oui, c'est toujours de te dire, il y a la situation, on peut peut-être l'améliorer toujours, rester toujours un petit peu sur une veille. Et je vais aller sur une autre question, du coup. Comment t'es arrivé, du coup, au cabinet familial FIDES en 2003? Comment tu l'as changé? Comment t'en es arrivé aujourd'hui à Lucius Group?
Donc, en octobre 2002, j'ai mon diplôme. Et en janvier 2003, mon père décède d'une crise cardiaque en 3 jours. Donc, en janvier 2003, je me trouve... à la tête de 3 cabinets d'expertise comptable. Mon père avait 3 cabinets d'expertise comptable et 2 petites gamines de 3 ans et 5 ans. Et je gère tout ça. Alors, c'était compliqué, bien évidemment, au début. J'ai eu la grande chance d'avoir la confiance des clients qui sont restés. La contrepartie, c'est que comme je travaillais déjà avec mon père depuis 5 ans, les clients me connaissaient. Et pour eux, en fait, lui ou moi, c'était la même chose. Eux aussi ont été traumatisés par son départ soudain, parce que souvent, quand même, dans ces relations de proximité expert-comptable, chef d'entreprise, ils sont tous un petit peu projetés aussi, en se disant « ça a été lui, ça aurait pu être moi », parce que vraiment, il était en pleine forme, il n'y avait pas de soucis, c'était vraiment un accident de la vie. Et donc, ils ont été extraordinaires, d'une solidarité exemplaire. En revanche... Mais j'avais 33 ans et il me posait des questions techniques qu'il posait à mon père. D'accord. Et entre mon père et moi, il y avait 30 années d'écart, d'expérience professionnelle surtout. Et ben, j'ai relevé le défi, là j'ai bossé comme une folle, là j'étais pas à 35 heures les premières années pour prendre les 3 cabinets. J'ai énormément, énormément travaillé, je me suis énormément formée pour être à la hauteur des questions que posaient les clients. Et puis petit à petit, Et ça s'est fait tout seul, et puis j'ai repris les cabinets, et peut-être au bout de 5 ans, là, j'ai organisé, j'étais plus en zone d'urgence, parce qu'à un moment donné, on est dans l'urgence. Donc sorti de la zone d'urgence, qui a duré 1, 2, 3, 4, 5 ans, parce que j'ai eu des difficultés sur un cabinet où un expert comptable a détourné de l'argent. J'ai eu des difficultés aussi avec l'ordre. L'ordre qui n'avait vraiment pas été du tout à la hauteur dans tous ces épisodes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours très attachée à écouter beaucoup les consoeurs, les confrères qui sont en difficulté, qui ont des drames comme j'ai eu également, parce que là, en 2003-2005, c'était pas tout à fait ça. J'ai trouvé, c'est pour ça que je change beaucoup de choses. Donc, au bout de 5 ans à peu près... Oui, j'avais un cabinet, j'ai vendu un cabinet, il ne m'en restait plus que deux, et puis je bossais 35 heures.
Tu n'as jamais eu ce moment de doute en disant, j'ai 33 ans, j'ai 3 cabinets, tu dis que j'ai 30 ans de différence d'expérience, j'arrive pas à répondre un petit peu à toutes les sollicitations des clients, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça arrivait à un moment dans ta tête ou pas du tout?
Mais pas du tout. J'ai eu aucun moment de doute.
Tu as cette volonté en fait tout le temps en toi, depuis très jeune peut-être?
Non, je sais pas de quoi te dire, il y avait aussi, alors évidemment j'étais profondément triste, et peut-être que je me suis réfugiée dans le travail, certainement, d'une part, et aussi c'est comme si j'avais une mission en fait. Enfin, j'ai le diplôme en octobre 2002, mon père décède en janvier 2003, je me suis dit voilà, ça y est, il me laisse la place. Donc il me laisse la place, j'y vais. C'était même pas possible de ne pas y aller, limite de le décevoir. Voilà. Et donc, mon père s'appelait Lucien. Lucien Rothman. Et il y a quelque temps, j'ai voulu changer le nom de FIDES, puisque ce cabinet s'appelait FIDES avant, FIDES Paris, alors que nous sommes à Montrouge, en réalité. Et j'avais envie de lui rendre hommage, bien évidemment. Et donc, j'ai tapé sur Google. Toi, tu fais ChatGPT. Moi, j'ai fait Google et j'ai tapé Lucien. Et j'ai vu que Lucien, ça venait du latin Lucius, qui vient du latin lux, la lumière. Et c'était évident qu'il fallait que ce cabinet s'appelle Lucius Expertise, Lucius Finance, Lucius Group. Parce que nous éclairons les chefs d'entreprise. Et cette année-là, en 2024, le cabinet a 40 ans. Et je suis très fière parce que des entreprises qui perdurent pendant 40 ans, ben, il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, cette année, c'est le 40e anniversaire de ce cabinet qui a été transmis familialement.
Il y a un petit point que je relève, tu nous as dit que t'as, sur les trois cabinets, tu en avais vendu un. C'est peut-être que tu, comme tu dis, tu es pragmatique et tu t'es reconcentré en te disant, bon là, je gère mieux, je suis obligé de me... pendant le
oui, bien sûr, bien sûr. J'avais pas d'ambition de faire beaucoup de croissance externe. Moi, j'avais l'ambition d'élever mes filles.
Oui, mais il faut le dire, très bien.
Eh bien, je le dis. Et donc, j'avais ces cabinets et j'avais l'ambition d'être à la hauteur de la mission qui m'avait été confiée, c'est-à-dire techniquement répondre aux clients et les accompagner, parce que j'adore accompagner le chef d'entreprise. Donc, ma vie, c'était... répondre aux clients et être proactive à leur côté et élever mes filles pour les lancer dans la vie. Bien évidemment, je ne voulais pas que mes filles aient une mère qui rentre à 21h et qui bosse tous les week-ends. Je ne voulais pas ça, c'est ce que j'avais vécu. Alors donc j'ai vraiment réussi parce qu'aucune d'elles ne fait expert comptable. Elles n'ont pas été traumatisées comme moi. Et donc voilà, c'était un choix de vie, mais c'est ça que permet cette profession. On fait ce qu'on veut. Donc c'est extraordinaire. Donc moi, je suis ravie. Donc voilà, deux cabinets. Après, j'en ai revendu un aussi, et j'en ai plus qu'un maintenant. J'en ai créé un autre, mais il n'a pas trop décollé. Voilà.
Mais c'est bien. On voit, on peut en vendre. Après, on peut en racheter. C'est vraiment en fonction de comment, au fur et à mesure de la vie, quoi. C'est
oui,
top.
Bien sûr.
Mais j'ai bien compris cette maxime tout le temps, c'est mes filles et comment je les accompagne autour chez ma vie professionnelle. Et ça, c'est bien d'avoir ce... faut le rappeler. Souvent, on dit, bon, faut faire un choix, soit vie professionnelle, soit vie perso. Et toi, t'as dit, non, je les construis deux. Autour.
Oui, non, puis j'ai fait les deux. De toute manière, ça me nourrissait. J'adorais, j'adore mon métier. J'adore mes clients, j'adore les accompagner. Et j'adore mes filles aussi. Donc, j'ai fait les deux.
Est-ce que ça t'a permis, bah, par exemple, voilà, l'éducation, de grandir avec tes enfants? Ça t'a permis aussi d'avoir du recul sur certaines situations professionnelles. Parce qu'on fait souvent l'inverse.
Alors, quand j'étais petite, non. Là, à 23-25 ans, donc je suis régulièrement traitée de boumeuse, ce qui est très très sympa de leur part. Et,
Tu leur dirais, tu passes dans des podcasts, du coup, elles vont
oui,
dire « Waouh !»
Exactement. Et surtout, c'est des jeunes filles de leur temps. C'est-à-dire qu'elles se saisissent de problématiques qui nous étaient étrangères à l'époque. L'une s'occupe beaucoup de durabilité. Et donc là, quand je reviens de séminaire à Séville, je me fais un peu en guirlandais. Et l'autre s'est saisie beaucoup, en fait, des problématiques d'égalité homme-femme. Donc, il y a beaucoup de discussions à la maison sur ces sujets qui sont très contemporains.
Mais c'est bien, ça te permet aussi d'avoir des visions différentes et d'avoir une...
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
Toujours rester à l'écoute, ça je trouve ça bien. Donc tu nous dis le cabinet, donc tu as eu un moment dur, il a fallu que tu bosses. Après ça allait mieux, tu as pris plaisir. Et après, à quel moment tu t'es dit, ça y est, on part pour devenir président du conseil régional? Est-ce que c'est une opportunité ou tu n'y pensais même pas?
Alors je n'y pensais pas et je me suis dit, tiens, mes filles commencent à avoir 14-16 ans, je vais me rapprocher des syndicats pour investir dans la profession. J'avais envie de rééquilibrer tout ça, parce que bosser 35 heures au cabinet, voire 30 heures, ça ne me suffisait pas, donc j'en voulais un peu plus. Et donc je me suis rapprochée d'un syndicat, et comme on est... isolé, hein, en tant que professionnel libéral. Moi, mon cabinet, il fait 11 collabs, il en faisait 11 il y a 10 ans. Donc en 2014-2015, donc il y a 10 ans, je me suis dit, je me rapproche d'un syndicat, je me suis rapproché du syndicat ECF, et je suis rentrée au conseil d'administration. J'étais aux côtés de Laurent Benoudis lorsqu'il était président d'ECF Paris, et petit à petit, je me suis saisie des problématiques, on a partagé des visions de métier, et j'ai adoré en fait ce travail de groupe en fait, que je n'avais pas dans un cabinet seul. Et donc, je me suis retrouvée dans un groupe, dans une équipe. Et vraiment, j'incite tout le monde à se rapprocher d'un mouvement, d'un syndicat, pour rompre l'isolement. On est bien ensemble. On est bien ensemble. Voilà, partager, surtout en ce moment, avec un métier qui est en évolution structurelle, où il y a deux, trois enjeux à comprendre. Donc, je me suis rapprochée du syndicat ECF. Comme j'ai souvent beaucoup d'idées pour faire progresser, donc je me suis très souvent portée volontaire pour porter des sujets, pour porter des projets. J'avais assez rapidement inventé les matinales du numérique. Enfin, voilà, j'étais toujours proactive. Et dans ces organisations, donc, quand il y a des gens qui se proposent de faire des choses, on leur laisse beaucoup la place. Et donc, on m'a laissé beaucoup de place. Et à un moment donné, on m'a dit, et si tu devenais présidente de l'ordre? Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et pour moi, petite expert comptable de Montrouge, je me retrouvais présidente de l'ordre. C'était une aventure. Une aventure un peu waouh que j'ai relevée et que j'adore.
J'ai deux questions. J'ai déjà posé une qui me revient souvent, où on me dit « Oui, mais ça n'aide pas mon cabinet à se développer. » Et le second, en effet, on y va pour la gloire, en fait, là-dedans. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour son cabinet? Est-ce que tu pourrais répondre ça souvent? Les conflits ressortent.
Je ne sais pas quoi te répondre. Quand j'ai eu la volonté de me lancer dans cette aventure, bien évidemment, il a fallu que je restructure mon cabinet. Je me suis fait coacher. Et comme je suis une femme organisée, planificatrice, je ne me suis pas fait coacher 6 mois avant. Je me fais coacher 2-3 ans avant, quand je comprends qu'il se passe quelque chose, pour restructurer le cabinet. Parce que ce cabinet, maintenant qu'il est... on a tous compris qu'il m'est cher, parce qu'il y a une dominante familiale importante. Donc ce cabinet, c'est une partie intégrante de ma vie. Donc il n'était pas possible que je m'investisse dans les instances, le syndicat, et que d'un autre côté, le cabinet périclite. Donc le cabinet n'a pas du tout périclité, et j'ai transformé le cabinet. J'avais un jeune... à mes côtés extraordinaire qui finalement a suivi l'aventure. Donc ça a été en fait une aventure collective avec 2-3 personnes de mon cabinet. Et quand je leur dis si je suis moins présente, je délègue, on réorganise le cabinet. Enfin, c'est vraiment une reconstruction structurelle du cabinet pour qu'il n'y ait pas de vase communicant trop désavantageux. Et c'est ce qui s'est passé, et pendant longtemps, quand je venais au cabinet, je leur disais, moi j'y suis, et plus on a de chiffre d'affaires. Parce que j'ai délégué, parce que j'ai... En fait, nous experts comptables, on est très techniques, et parfois on a les mains dans le cambouis. Et à un moment donné, il faut le lâcher peut-être, le cambouis. Prendre le recul, avoir une stratégie. Il est vrai qu'avant de m'investir, je faisais des impôts sur revenus, je faisais des IFI, je faisais, je sais plus si je faisais de la TVA, mais peut-être encore des TVA, je faisais des liasses fiscales, je faisais tout ça il y a 10 ans. Et évidemment, on ne peut pas faire ça et s'investir dans les instances. Donc j'ai restructuré le cabinet, on était 9 hier, on est 12 aujourd'hui ou 11. Donc c'est possible, c'est qu'une histoire de structure, de volonté, de priorité, de façon de voir le métier, de dire bon, on arrête les cut-offs à 3,12 €, on arrête de perdre du temps à chercher des factures si les clients nous les donnent pas, on arrête. Donc il y a ce recul en fait de chef d'entreprise qui a été qui s'est imposé à moi, puisque évidemment je peux pas m'investir dans les instances et être au quotidien en cabinet. Eh bien, ce recul de chef d'entreprise m'a permis de restructurer le cabinet, et le cabinet va encore mieux.
Ce que j'aime bien, c'est que tu as l'anticipation de la stratégie. Tu as dit, en fait, j'ai pas attendu, j'ai préparé 2-3 ans avant. Oui. Pour vraiment... Et en fait, c'est souvent ça, c'est qu'on prend, on va en politique, et on dit, bah ça y est, maintenant, comment on fait? Là, tu as anticipé, c'est ça qui est très impressionnant, c'est bien. Tu es organisé, tout ça, et c'est peut-être ce qui te permet de suivre.
Sûrement. Oui, sûrement.
Je vais sur une autre question maintenant. Alors, dans notre profession, comme tu dis, il y a beaucoup d'hommes. Aller sur un poste de présidente en tant que femme, est-ce que ça a été aussi simple que si tu étais un homme? Tu t'es jamais posé la question.
Si, si, je me suis posé la question si, je ne sais pas si c'était simple ou pas. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être à côté de Laurent Benoudis, qui, à un moment donné, a dit ça pourrait être Virginie la suivante. Donc là, on comprend tout de suite qu'on est dans un monde d'hommes qui choisit une femme. Là, ça commence à changer un peu, parce qu'avec Cécile de Saint-Michel, qui est présidente du Conseil national de l'Ordre, on a un peu plus de femmes, mais il est vrai que c'est un monde d'hommes, et c'est pas facile tous les jours. Parfois, nous nous exprimons et on n'est pas vraiment entendu.
Ça te demande plus de travail? Tu ressens, tu dis, il faut que je fasse plus d'efforts à chaque fois?
Alors ça s'appelle le syndrome de l'imposteur.
Bien sûr.
Moi, je l'ai, évidemment, comme beaucoup de femmes. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup. Là, tu m'as donné les questions avant, le podcast, j'ai des notes, j'ai des trucs, j'ai réfléchi ce week-end, je savais ce que je voulais dire, comment le dire, j'ai travaillé hier, donc je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais c'est possible d'y arriver en tout cas. Faut le préciser.
Ah, mais tout est possible. Vraiment, tout est possible. Vraiment, moi, je trouve que j'en suis la preuve. Hein. Tout est possible, on va avoir un petit cabinet et se retrouver présidente de l'ordre 10 ans après. C'est possible. Alors, j'ai pas dit c'est facile, hein.
Oui,
J'ai
mais
dit c'est
c'est possible.
possible. Faut structurer, prendre du recul, savoir où on veut aller et bosser. Bosser, bosser, bosser. Beaucoup travailler.
Et bah, du coup, t'as sûrement dû avoir des inspirations et des mentors. Est-ce qu'il y a des personnes ou des événements clés dans ta vie? Du coup, on pourrait revenir dessus qui t'ont dit, bah voilà, ça m'a aidé.
Alors, je vais revenir sur mon père.
Bien sûr.
Qui était passionné et avec une caricature de self-made man. Et alors on n'en parle plus, on le dit plus cette expression-là. Je sais pas d'ailleurs comment on dit aujourd'hui.
Je serais parti là-dessus.
Voilà. Eh bien, parce que mon père n'avait pas son bac. À 16 ans, c'était un petit gars qui vendait sur les marchés. Et je crois quand il a eu une vingtaine d'années, il s'est dit, je vais prendre des cours du soir de comptabilité. Et à l'époque, on pouvait devenir expert comptable sans avoir le bac. Et c'est pour ça que mon père travaillait énormément aussi. Et donc j'ai eu cet exemple, toute petite, du tout est possible, avec voilà, ce père qui m'a prouvé que possible. Après, il y a des grandes figures dans la profession. Moi, je suis en admiration devant René Ricol, qui a eu un parcours extraordinaire dans les instances, déjà, puisqu'il a été président de la CNCC et du Conseil supérieur de l'Ordre, à l'époque ça s'appelait comme ça, président d'IFAC, donc une carrière dans les instances, et puis une carrière aussi de politique,
Politique, oui.
médiateur du crédit, j'en passe, et c'est un homme extraordinaire, accessible, sympathique, j'adore le croiser, parfois on dîne ensemble, inspirant, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humilité, enfin voilà, René Ricol. Que j'aime beaucoup. Et après, il y a Agnès Bricard. Alors, Agnès Bricard, c'est mon modèle.
C'est la première femme qui a été
C'est la première femme qui a
présidente.
été. Alors, c'est ma prédécesseure en Île-de-France. Première femme présidente d'Île-de-France et aussi première femme du Conseil supérieur de l'Ordre à l'époque, il s'appelait comme ça. Et Agnès, elle est extraordinaire. Pour moi, en tant que femme, ça a été vraiment un modèle. Alors, c'est vrai qu'elle est arrivée en politique où il y avait très, 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 très peu de femmes. Maintenant, il y en a quand même beaucoup plus. Donc, Agnès, elle a un côté un peu warrior et parfois un peu bulldozer que je trouve extraordinaire. Enfin, et elle. Voilà, je dîne aussi régulièrement avec Agnès Bricard, qui est très inspirante pour moi, en tant que femme, dans le fait de s'imposer, en fait. Agnès s'impose. Et plus que s'impose, en fait, c'est une explosion, Agnès Bricard. Et c'est extraordinaire. Et il semblerait, alors ça, c'est une de mes filles qui me l'a appris quand elle a fait ses études d'égalité homme-femme, on a besoin de modèles dans la vie. Et souvent, les femmes prennent des modèles de femmes. Moi, j'ai pris Agnès Bricard.
Est-ce que tu te confiais des fois auprès d'elle pour avoir des retours ou leur demander leur vision sur certaines situations
Oui,
aujourd'hui?
bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je peux demander conseil à René Ricol, à Agnès. Et puis après, j'ai Laurent Benoudis. Un visionnaire. Il a construit quelque chose d'extraordinaire pour la profession, c'est Supexpertise. l'école là, qu'on a, que l'ordre, hein, l'école possédée par l'ordre et la compagnie des commissaires aux comptes et de Paris et de Versailles. Et cette école, je pense que c'est un des plus beaux projets de la profession que je suis très contente de soutenir en tant que présidente de l'ordre. C'est un projet que je soutiens à 100%. C'est compliqué une école, hein, parfois c'est compliqué de gérer une école, mais là, former les jeunes en initiale et former les professionnels en formation continue, c'était indispensable. Indispensable. Donc voilà mes mentors et inspirants.
Et donc, au cours aussi de ta carrière, tu as sûrement dû surmonter, tu nous as dit, des grands défis. Qu'est-ce que tu as appris de l'expérience, ces expériences-là, difficiles, ou positives aussi?
Alors moi, j'ai beaucoup de recul. Hein. Enfin, toutes ces expériences qui ont été prendre des cabinets en deux temps, trois mouvements, suite à un décès accidentel, enfin, ça donne beaucoup de recul dans la vie. Et puis après, beaucoup d'envie. Hein. Et quand on a connu des grandes difficultés, souvent la suite est assez facile. Donc je trouve que c'est facile en fait. C'est facile de construire, d'être aux côtés des consoeurs et des confrères, d'être utile et d'être à 100%, 120, 130, 140% pour construire cette profession.
Ben c'est super ce que tu as fait. Le parcours, on va dire, cette partie 1 passée, je voudrais qu'on aille maintenant dans ta partie présente et que tu nous dis, en gros, à quel moment tu t'es dit, professionnellement ou personnellement, ça y est, j'ai réussi, je suis fier de moi. Ça y est, ma vie, eh ben, j'en suis content, ça y est, c'est que du plus maintenant.
Alors, je suis très fière de moi, de la réussite de mes filles. Voilà. Donc ça, personnellement, je suis très fière de mes filles. Professionnellement, c'est un chemin. Pour moi, je ne suis pas fière. Je n'ai pas de réussite professionnelle. J'ai un parcours et j'ai des envies. J'ai des envies d'être utile. J'ai des envies de construire. J'ai des envies de transformer les cabinets, d'être au service de la profession. Donc, il n'y a pas de réussite. Et c'est un chemin où je donne tout. Et j'espère vraiment être très, très utile pour tous les experts comptables franciliens. Je pense être un petit peu. Et je construis avec des idées tout le temps nouvelles. Donc, je n'ai pas de réussite, j'ai des idées nouvelles. Souvent, par exemple, il y a quelques mois, on a construit ici la fresque de la facture électronique pour bien sensibiliser les experts comptables. Donc, ces idées-là, on les développe à l'ordre, on les réalise et un autre projet arrive. Voilà. Donc, je passe de projet en projet et nous passons parce que là, à l'ordre à Paris, il y a 40 élus, 40 permanents, tous pleins d'enthousiasme et pleins d'entrain pour réaliser tous ces projets.
Est-ce que tu es plutôt dans une situation, en fait, c'est prendre plaisir dans des projets plutôt? Pas réussite, mais je prends plaisir, en fait, je m'éclate dans mes...
Bah, j'essaie de... comme je suis moi-même à la tête d'un petit cabinet, je me demande ce qu'ont besoin ces cabinets-là, aujourd'hui. Et donc, au fil du temps, voilà, je passe d'un projet à un autre. Alors, c'est des petites réussites. Par exemple, on a mis en place ce portail Be Bye Bye. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, c'est la plateforme pour céder son cabinet et s'informer quand on veut en acheter un. Quand tu as 1200 experts comptables franciliens qui ont plus de 62 ans, tu te dis qu'à un moment donné, il va y avoir beaucoup de transactions de cabinet. Donc, on crée une plateforme. Donc, ici, une équipe extraordinaire, on crée cette plateforme. Elle a eu beaucoup de visites, c'est un succès. Donc, ça, voilà, c'est des succès de réalisation et pas de réussite professionnelle.
On passe maintenant à une autre question, l'organisation. Donc, tu as l'air très organisé, mais comment tu arrives à gérer ta vie perso, le conseil régional, le cabinet? Donne-nous la méthode pour que nous, on fasse la même chose.
Alors...
Ah, tu ne veux pas donner la méthode?
Si, je vais donner la méthode, je cloisonne. Je cloisonne, j'arrive à 50-60%, c'est-à-dire qu'il y a une journée dédiée à mon cabinet, une journée dédiée au Conseil national de l'ordre, t'as oublié le Conseil national aussi, et deux journées dédiées au Conseil régional. Et après, il y a encore une autre journée qui est dédiée à tout dans le désordre. Donc ça, c'est la théorie. Parce que ça me permet, quand je cloisonne comme ça, déjà de ne pas courir, parce que là, j'ai trois bureaux. J'ai un bureau à Saint-Lazare, un bureau à Montrouge et un bureau Port-de-Vendres. Physiquement, j'ai trois bureaux. Et ça me permet de cloisonner et aussi de cloisonner intellectuellement. Parce que j'ai peut-être un peu moins d'élasticité qu'avant. Donc, traiter en une matinée des sujets de mon cabinet, du Conseil régional, du Conseil national, je sais que j'y arrive pas beaucoup. Alors, j'essaye de cloisonner. Voilà. Et ça marche pas trop mal. Donc, des journées dédiées. Et je travaille beaucoup aussi, de toute manière, parce que là, je t'ai fait le truc en 5 jours, mais je bosse 7 jours sur 7. Là, je suis passionnée. Là, je suis une passionnée de toutes mes fonctions, parce que je construis partout, au cabinet, au Conseil national, au Conseil régional, et j'adore ça. Donc, les journées n'ont pas de fin. J'ai des déjeuners, j'ai des dîners, j'ai des séminaires. Donc, je m'arrête. Là, je ne m'arrête plus, là.
Mais après, il y a aussi une partie aussi de confiance que tu as dû donner sur mon cabinet, avec tes associés.
Tout à fait. J'ai deux associés extraordinaires. Je vais bientôt en avoir un troisième. Et d'ailleurs, il vient d'avoir le DEC. Hein. Je suis super fière et contente pour lui. Et ouais, je délègue. Enfin, et ils sont ravis, ils sont jeunes, ils ont à peu près tous 35 ans. D'accord. Et ils gèrent très bien le cabinet. Alors, j'ai une spécificité dans le cabinet, hein, je vais pas tricher, je vais le dire. Je fais beaucoup d'accompagnement en gestion. Et j'ai une vingtaine de clients qui représentent à peu près 60% du chiffre d'affaires. Donc, mon job au cabinet, voire même peut-être maintenant 70%, mon job au cabinet, c'est en gros de m'occuper de 20 clients. Pas compliqué. Hein,
oui, mais au moins, tu as réfléchi.
Mais c'est une stratégie. Ouais. Exactement, c'est une stratégie de positionnement, de d'être présente sur ces clients-là. J'ai cédé les autres petits clients. Donc, j'ai une stratégie de cabinet. Et m'occuper et être présente pour 20 clients, c'est faisable. 200 clients, j'aurais du mal avec les autres fonctions, mais 20 clients, c'est vraiment faisable.
Mais pareil aussi, à contrario, 20, il faut vraiment que tu fasses du travail très bien, parce que sinon, ils s'en vont aussi. Donc, ça peut être une autre situation. Et donc, c'est bien. Tu réfléchis, au moins, tu as pris le temps de prendre une stratégie, comment je me positionne. Ça, c'est bien de le rappeler pour les confrères, où tout le temps, on se dit, on prend ce qu'il y a et puis on verra.
Oui, pendant longtemps, j'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Ça fait 30 ans que je travaille. Donc, c'est facile pour moi de dire maintenant la stratégie au bout de 30 ans. C'est plus facile pour un jeune qui débute. Là, les jeunes experts comptables qui s'installent, à 80%, ils s'installent ex nihilo. Ouais. Donc, je les entends déjà à entendre ce podcast en se disant c'est facile de faire le tri. Quand on débute, on va accepter n'importe qui. Mais j'ai envie de répondre, peut-être pas. Peut-être pas. On n'est pas obligé d'accepter n'importe quel client au début. On n'est peut-être pas obligé de s'installer à ex nihilo. On peut faire un mixte. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la co-traitance avec leur ancien cabinet et ça leur permet de d'équilibrer en fait leur finance, hein, parce que c'est une histoire financière.
Hein. Oui, bien sûr.
On peut s'interroger dès le début. On peut vraiment s'interroger. C'est ce que je fais là. À Paris, on a proposé, ça fait 3 ans qu'on propose les parcours de la transformation, où on insiste beaucoup, beaucoup sur la stratégie. Et d'ailleurs, je crois que j'anime un truc la semaine prochaine, encore des parcours de la transformation, c'est le onboarding client, en fait. Comment on fait pour onboarder un client, c'est essentiel. Donc, le métier d'aujourd'hui, ce n'est plus le métier d'hier. Et là, il faut vraiment s'interroger sur ça. Sur sa stratégie, les clients qu'on veut accepter. On est un client qu'on accepte à 3000 euros, où on va passer des heures et des heures et des heures, on n'est peut-être pas obligé de l'accepter.
Mais souvent, on a ce problème dans la profession, c'est de se dire, Je vais peut-être vendre trop cher, ça vaut pas cette. On rend notre mission sous qualitatif. Enfin, je sais pas, on n'ose pas dire, voilà, ça vaut tant, on apporte tant. Tu l'as ce ressenti?
Je l'ai depuis longtemps et je l'ai même conceptualisé parce que je ne comprenais pas pourquoi les experts comptables étaient aussi frileux pour monétiser en fait leur valeur ajoutée. Et j'ai discuté avec une femme spécialiste de la vente qui fait du coaching dans la vente et qui a beaucoup coaché les notaires et qui me disait on a le même ADN que les notaires et je pense que c'est ça. Comme si l'expert comptable avait une délégation de service public et qu'il devait être corvéable à merci dès qu'il y a une nouvelle. Alors j'allais dire dès qu'il y a une nouvelle loi de simplification, donc on sait qu'on va avoir beaucoup plus de complexité. Et comme si donc un nouvel imprimé à répondre, une nouvelle obligation devait être comprise dans la mission et ne devait pas être refacturée. Et ça, je le dis à chaque fois que j'anime, enfin, personne ne nous demande de ne pas facturer. Personne. Il faut facturer. Il y a une nouvelle taxe, une nouvelle obligation. On facture, c'est pas compris dans le forfait. Et il y a cette peur de l'expert comptable de proposer et de monétiser qui est vraiment dommage. Qu'on devra faire de toute manière demain, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans le forfait, c'est les missions qu'on aura très peu demain avec le développement de la facture électronique. Donc, aujourd'hui, on donne gratuitement souvent le conseil qu'on devra vendre demain. Donc, commençons aujourd'hui à monétiser ce conseil qui en vaut la peine. On arrête le déjeuner avec le client, avec une petite gribouille sur un coin de table qui est infacturable. On fait un rapport, une analyse et on facture.
T'as complètement raison. J'avais une dernière question pour la nouvelle génération. La jeune Virginie, là, on la transpose, elle a 20 ans, elle veut se lancer dans la profession, mais elle a peur. Quel conseil tu pourrais lui donner en lui disant, allez, pour faire le même chemin que toi, là? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Il ne faut pas avoir peur parce que vraiment, c'est une profession extraordinaire où tout est possible. Enfin,
Est-ce qu'il faut avoir peur du temps de travail ou si on le voit comme un investissement plutôt, ton temps de travail, par exemple?
vraiment, le temps de travail, c'est ce qu'on veut en faire. De toute manière, au début, on va commencer expert-comptable stagiaire, donc on va être dans un cabinet. On va bien voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. En fait, les 3 années de stage, c'est un étalon extraordinaire pour peut-être choisir sa mission, pour choisir sa qualité de vie, pour voir. En fait, on n'est pas du tout obligé de bosser 50 heures, 60 heures par semaine. C'est pas obligatoire, pas du tout. Dans mon cabinet, les heures sup, elles sont interdites. On ne fait pas d'heures sup en période fiscale. Donc, il y a une vraie volonté de cabinet. Et je connais beaucoup de cabinets aussi aujourd'hui d'expertise comptable, où il n'y a pas d'heures supplémentaires et où on ne bosse pas les week-ends en mars-avril. Donc il y a de nouvelles façons de travailler. Donc n'ayons pas peur des heures de travail. N'ayons pas peur. Parce que il y a beaucoup de structures qui aujourd'hui ne les imposent pas. Après, c'est un métier qui demande de la technicité et une formation permanente. Donc, il faut se former, il faut tout le temps se remettre en question, se former en social, en fiscal, en juridique. C'est ça le métier. Si on est un expert comptable traditionnel, si on choisit cette voie de l'expert comptable traditionnel, il faut se former. Et je pense qu'il faut passer peut-être un peu plus de temps à se former plutôt qu'à faire une TVA au centime. Voilà.
Mais là, on n'a même plus un expert comptable, on a une chef d'entreprise en face de moi.
Oui, mais c'est ça en fait. En fait, dès qu'on est à son compte, on est chef d'entreprise. C'est ça c'est ça le mindset qu'il faut changer. Là, il faut transférer ça en fait. On a un diplôme hyper technique qui nous donne des technicités, toutes les expertises liées au métier d'expert comptable. Et dès qu'on est à son compte, il faut apprendre à devenir chef d'entreprise, même quand on est tout seul. Donc on trie, on sélectionne ses clients, on choisit ses collabs si on veut embaucher, on choisit le métier qu'on veut exercer. Il faut se transformer en chef d'entreprise parce qu'on est chef d'entreprise et conseiller de chef d'entreprise. Donc en réalité, on est chef d'entreprise. Aujourd'hui, dans le cursus, malheureusement, on ne nous apprend pas à être chef d'entreprise. On nous apprend, on a un peu de management, etc. À 10%, on nous apprend à être chef d'entreprise. À 90%, on nous apprend à être un technicien de l'expertise comptable. Il faut un petit peu changer tout ça. Mais là, Laurent Benoudis, qui est président du CFPC, est en train de mettre en place une réforme du diplôme pour que déjà, dans la formation initiale, on ait plus d'équilibre. Mais pour tous ceux qui sont experts comptables aujourd'hui, prenez une casquette de chef d'entreprise pour avoir le recul suffisant de savoir comment s'organiser.
Je vais te poser une dernière question. Est-ce qu'il existe un mentorat où tu pourrais être le mentor de quelqu'un pour l'accompagner ?
Eh bien, il y a 3 ans, nous avons sélectionné à l'ordre ici des coachs et des mentors pour aider les experts comptables. Alors, on était plutôt dans la case transformation, mais c'est des coachs et des mentors, donc on a une liste hein, qu'on peut mettre à disposition de tout le monde, parce qu'il faut se faire coacher. Enfin, moi, je me suis fait coacher, je me fais coacher régulièrement, parce que parfois, je me perds.
Bah, t'as pas l'impression de dire, en fait, je suis pas assez bonne. Si on dit que j'ai besoin d'un coach, en fait, c'est que je suis pas bon. T'as pas peur de ça ?
Tout à fait. Je sais très bien que c'est le non-dit du coaching. Mais moi, j'ai peur de rien déjà. Et évidemment qu'on peut pas tout savoir. Donc on ne sait pas tout. Et parfois, quand on est trop dans la situation, on ne voit pas ce qui se passe. Et le coach arrive avec un regard neuf et nous aide. Alors, une, deux, trois séances de coaching, ça peut suffire à dénouer des situations parfois un peu compliquées, qu'on trouve compliquées. Donc, on a besoin d'un coach à un moment donné pour être éclairé.
Alors maintenant, je voudrais qu'on aille sur la partie 3, le futur. Donc, quels sont tes projets pour cette année ?
Alors, pour 2024, mes projets, en tant que présidente du Conseil régional de l'Île-de-France, c'est de continuer ce que j'ai entrepris. J'ai 3 axes. Hein. Le premier, c'était l'attractivité avec la formation, donc le soutien de SupExpertise, qui est toujours un acte fort de développement pour le Conseil régional. Le deuxième, c'est la transformation des cabinets. Depuis 2020, je suis à fond sur la transformation des cabinets parce que c'est un vrai chantier structurel pour l'ensemble des cabinets. Donc, sensibiliser les experts comptables à devenir, par exemple, chef d'entreprise. On en a beaucoup parlé, avoir une stratégie, progresser en management, choisir le métier de demain qu'on va faire. On sait qu'avec la facture électronique, la mission traditionnelle sera moindre. Donc, toute cette transformation de cabinet. Et l'axe qu'on cite un peu moins, qui est un peu moins sexy, c'est le régalien. Moi, j'étais un peu traumatisée. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, là, en 2002, quand mon père est décédé, et que l'ordre n'a pas du tout battu, tout était à la hauteur. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait quand j'étais présidente du tableau de l'ordre, je recevais, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, tous les jeunes experts comptables qui s'installent lorsqu'ils ont des difficultés, et surtout quand ils s'associent avec des non-membres de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai fléau qui est les illégaux qui s'infiltrent dans la profession en s'associant avec des experts comptables. Et beaucoup de jeunes experts comptables, parfois un peu perdus, s'associent avec des non-membres de l'ordre sans se rendre compte qu'ils ne vont pas avoir la main sur la gouvernance. Et c'est pour ça que l'axe du régalien est important, donc de lutte contre l'exercice illégal, la résolution des litiges, le tableau de l'ordre, les stagiaires, les experts comptables stagiaires. Donc voilà, c'est mes 3 axes. Donc 2024, on continue d'être concret, de faire des super universités d'été en septembre avec plein de thématiques, avec une nouveauté qui va être une job zone. Parce que début septembre, il reste encore pas mal d'apprentis qui n'ont pas de cabinet. Et donc là, avec des partenaires, etc. Donc toujours plein d'idées. Et c'est ça ma construction 2024.
Il y a un truc qui ne nous a pas parlé, je crois. C'est fin 2024, il n'y a pas des élections. Est-ce que tu veux en parler ou pas du tout ?
Oui, on peut en parler. Les élections, enfin, moi, je veux continuer l'aventure pour continuer d'être au service des consoeurs et des confrères. Donc je me présente fin 2024 au Conseil régional d'Île-de-France en binôme avec Gilles Bossiger pour continuer toutes ces actions que j'adore et mettre toute l'énergie que j'ai au service de cette profession. Je crois que tu l'as compris, qui est une profession pour moi qui a un côté affectif, en fait.
Bien sûr.
Voilà. Donc, oui, bien sûr, mais le temps des élections, c'est le temps des élections. Et là, c'est le temps de l'action. On est loin, c'est en novembre. On a encore plein de choses à faire.
T'as raison. Maintenant, on va se projeter. Allez, dans 10 ans. Comment tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans, je me vois toujours utile, toujours active, toujours passionnée, toujours engagée.
Travailler toujours autant?
Bien évidemment, au service de la profession. Et évidemment, ouais, toujours autant. Oui, toujours autant.
Ah, tu veux pas ralentir?
Ah non, non, j'ai aucune intention de ralentir. J'adore construire. Donc je construire pour les autres, être à leur écoute. J'adore construire. Donc et construire pour cette profession, c'est magnifique pour moi.
Et ça te dit pas d'ouvrir par exemple une antenne au bord de l'eau ou ça? Un nouveau cabinet un peu plus loin pour profiter un peu plus, peut-être?
Non, mais moi, je profite ici. J'adore ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être au bord de l'eau pour m'épanouir. J'adore les fonctions que j'ai au Conseil national, au Conseil régional. Vraiment, j'adore être au service des consoeurs et des confrères. C'est vraiment... Et puis être utile. Alors, je ne suis pas du tout utile à tout le monde. Mais quand on vient me voir et qu'on me croise, parce que j'en croise des experts comptables que j'ai conseillé, par exemple, de ne pas s'associer il y a 4-5 ans, et qui viennent me voir en me disant « Ah, Virginie, merci. » Mais vraiment, merci beaucoup. Je ne savais pas que l'ordre servait à ça. Mais alors, merci. Et l'ordre, avec son côté très rigoureux, quand il est utile, mais c'est une vraie, vraie, vraie joie. Vraie joie.
Eh ben, je te remercie, en tout cas, pour toutes ces questions, toute cette valeur ajoutée que tu as proposée. Mais avant de nous laisser, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu pour finir l'interview. C'est un jeu qui s'appelle Confession intime. Je voudrais que les auditeurs apprennent à mieux te connaître. Et donc, je vais te poser une série de questions et tu vas me répondre par plus ou moins. Est-ce que tu es d'accord?
Je suis d'accord.
Allez, on est parti. Au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures?
Plus.
Au niveau du cercle social, est-ce que tu as plus ou moins de 10 amis?
Plus.
Est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures?
Ça dépend.
La période fiscale ou pas?
Non, c'est pas du tout une période fiscale. C'est pas du tout une période fiscale. Ça dépend des jours.
D'accord. Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines par an?
Plus.
Ah, ça, c'est important de le dire.
De congé, ouais, plus.
Ben, c'est top, ça.
Je prends une semaine de congé peut-être tous les 2-3 mois et puis... ouais.
Donc c'est faisable, plus. Faut le dire.
Faut s'arrêter à un moment donné.
Faut savoir souffler.
Exactement.
Et la dernière, est-ce que tu envisages de prendre ta retraite plus ou moins 65 ans?
Jamais.
Jamais, jamais?
Jamais. J'ai pas du tout envie de prendre ma retraite. J'ai envie d'être toujours utile, active et avoir des projets réguliers et surtout les concrétiser.
Eh bien, on te remercie d'avoir ouvert le bal sur cette première saison de Pourquoi je suis expert comptable.
Et merci beaucoup de l'invitation.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.